Catherine Bénigne-Cassa naquit le 25 mars 1347 près de Fontebranda dans la maison du teinturier Giacomo Bénigne-Cassa et de sa femme Lapa di Puccio dei Piangenti. Le 25 mars, on célèbre l'Annonciation de la Sainte Vierge. Et de plus, la fête des rameaux tomba cette année-là le même jour. Dans la cathédrale de Sienne, l'évêque bénissait donc les branches d'olivier que les diacres portaient ensuite de l'autel aux paroissiens. Et le peuple, debout, gardait à la main les rameaux gris d'argent, tandis que les voix claires des enfants de chœur entonnaient le joyeux « Hosanna ». Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. C'était le salut de l'Église à la plus illustre fille de Sienne, à l'épouse la plus aimante du Christ. Benedicta quae venit. Catherine était la 23e enfant de ses parents. Elle vint au monde en même temps qu'une petite sœur jumelle, Giovanna, qui d'ailleurs mourut peu après. Mona Lapa nourrit elle-même Catherine, ce qu'elle n'avait jamais eu le temps de faire pour les autres en raison de ses fréquentes conceptions. Catherine apporta ainsi une fin aux enfantements de sa mère, dit la légende. Quelques-uns seulement de ses nombreux enfants vécurent. Les plus connus sont Bénigne-Cassa, l'aînée, Bartolomeo, Maria Lissa, la cousine germaine de Giovanni, Colombini, Nicolas, marié à Palmieri di Nesse della Fonte, frère du dominicain Tommaso della Fonte, qui par la suite eut une si grande influence sur Catherine. Maddalena, mariée à Bartolo di Vanino, Bonaventura, mariée à Niccolo di Giovanni Tegliasi, Lissa, morte non mariée durant la peste de 1374, enfin Stefano. Par le mariage de Bartolomeo, les Bénigne-Cassa s'étaient alliés à l'une des familles les plus pieuses de Sienne, celle de Giovanni Colombini, mort en 1367, dont la nièce Catarina vécut jusqu'en 1388. Agnès, sœur de Giacomo, qui avait épousé Celle di Duccio, entra dans le tiers-ordre dominicain, le Montelate, après la mort de son mari et mourut en odeur de sainteté. Le père de Lapa, Nuccio di Piangenti, était matelassier et faisait des vers à ses moments de loisir. C'était un homme pieux, désiré de se procurer par ses aumônes une part des mérites, des prières et des bonnes œuvres de tout l'ordre dominicain. Plusieurs influences religieuses se faisaient ainsi sentir de divers côtés, et c'était généralement ainsi que nous l'avons déjà indiqué à celles des frères prêcheurs que l'on se ralliait. Il ne semble pas que les frères de l'autre grand ordre mendiant, légués par le XIIIe siècle au XIVe, les franciscains, et jouaient un rôle important à Sienne. Leur église était située en dehors de la ville, et ce ne fut qu'au XVe siècle que San Bernardino, l'éloquent prédicateur de mission, réussit à y attirer les foules. Au contraire, l'église San Domenico dominait Fontebranda, et il était facile aux Bénigne-Cassa de s'y rendre le matin pour entendre l'une des messes des nombreux prêtres de cet ordre. Dans la teinturerie de Fontebranda, c'était Giacomo qui avait le plus de dévotion. Lapa, son épouse, dit Raymond de Capoue, était une femme entendue dans les affaires du ménage, qui ne possédait rien de la malice des hommes de notre temps, et même, si elle l'eût voulu, incapable de dire un mensonge. Plus d'une fois dans la légende, il l'appelle la très naïve Lapa, Simplicissima Lapa, mais il ajoute qu'elle ne désirait pas ardemment les biens éternels. Étant tombée gravement malade, Elle ressentit une telle angoisse de la mort que Catherine, alors déjà grande, eut beaucoup de peine à rassurer sa mère. La passe se rétablit et vécut très vieille. Elle dépassa 80 ans. Elle vit ses enfants et petits-enfants mourir autour d'elle et en vint à se lamenter de ce que son âme fut chevillée de travers en son corps, si bien qu'elle n'en pouvait plus sortir. Catherine tenait son énergie de l'appât, mais sa piété et sa douceur inlassable lui venaient de son père. Raymond recueillit de la bouche même de l'appât de nombreux traits concernant la merveilleuse patience de son défunt mari, qui fut peut-être plus estimé après sa mort qu'apprécié pendant sa vie. Il est rare en effet qu'une femme d'énergie admire un homme pacifique. Et sans doute le teinturier était-il fréquemment exposé à s'entendre dire qu'il n'était qu'un niais et se retirait-il parmi ses baquets de couleurs, le cœur blessé par les paroles cinglantes de Mona Lapa. Mais après sa mort, devant l'évidente admiration du Dominicain qui appartenait à la noble famille Delle Vigne, un Delle Vigne avait été chancelier de Frédéric II, Lapa se complaisait à dépeindre la patience sans exemple de feu son mari. Celui-ci n'avait jamais permis à aucun des siens d'employer des termes violents ou de porter de sévères jugements sur autrui. Lorsqu'un homme auquel il avait depuis longtemps payé son dû le poursuivit et le fit condamner injustement, le doux teinturier ne témoigna contre lui aucun ressentiment. Et comme Lapa se mettait en fureur, ainsi qu'une Italienne en est capable, on se la figure en de telles circonstances, ameutant le quartier par ses clameurs, Giacomo Benincasa, intervenant alors, lui dit doucement « Tu verras, mère, Dieu amènera cet homme à de meilleures pensées et il reconnaîtra son injustice envers nous. » Ce qui se vérifia par la suite, ajoutait Lapa, quand elle racontait cette histoire. Le teinturier ne tolérait dans sa maison ni discours impie, ni conversation grossière. L'atmosphère y était pure. Quand Bonaventura, la sœur préférée de Catherine, fut mariée, c'est avec un étonnement mêlé d'horreur qu'elle entendit les propos que tenaient son mari et ses jeunes amis. Elle y était si peu habituée qu'elle en tomba malade. « Dans la maison de mon père, je n'ai point été accoutumée à ce langage, » répondit-elle aux questions anxieuses de son mari. « Et si tu ne veux pas me voir bientôt mourir, je te prie de renoncer à ces immondes conversations. » La famille qui s'appelait Benincasa jouissait en effet d'une bonne situation. Les fils aînés aidaient Giacomo dans ses affaires qui prospéraient à souhait. Quelques mois avant la naissance de Catherine, en octobre 1346, ils avaient pu louer à Giovanni di Gesso, représentant dell'Ia Arte della Lana, la vaste demeure située près de Fontebranda qu'ils habitaient maintenant. Ils possédaient en outre, à 8 miglia au sud de Tienne, une ferme, la Canonica, qui échut plus tard à Lissa, la veuve de Bartolomeo. Catherine grandit par conséquent dans la maison de la Via del Tintori. Comme beaucoup d'autres à Sienne, cette maison est bâtie à flanc de coteau. La teinturerie, installée à l'étage inférieur sur la façade de la Via del Tintori, se trouvait dès lors en sous-sol du côté de la Via del Tiratoio. Un escalier conduisait au premier, qui devient le rez-de-chaussée si l'on rentre par derrière, où se trouvaient les chambres à coucher. Au-dessus, il y avait une terrasse disposée en jardin et une grande cuisine qui servait en même temps de salle. Là, on prenait le repas, là, filait, cousait et reprisait les femmes. Tous s'y réunissaient chaque soir devant le feu pour faire la veglia, comme on dit encore dans la campagne italienne. On se chauffait avant de se coucher, on bavardait, on contait des anecdotes. Et là, dans la maison de Giacomo Benincasa, au milieu du cercle de la famille rassemblée autour du feu de Geneviève pétillant, se trouvait un jeune garçon qui devait exercer une influence décisive sur la vie de Catherine. C'était le fils adoptif Tommaso Della Fonte. Nicoluccia Benincasa avait épousé Palmiero Della Fonte et lorsque la peste de 1349, la peste de Boccaccio, eut fait orphelin le petit Tommaso qui avait alors 10 ans, Giacomo le recueillit à son foyer. C'était maintenant un jeune homme qui aspirait au cloître. Il voulait se faire moine chez les dominicains de Camporeggi. En attendant, il passait les longues soirées d'hiver chez les Benincasa, racontant tout ce qu'il avait lu dans la légende dorée de Jacques de Vauragine sur les apôtres et les martyrs, sur Sainte Marie-Madeleine et Saint-Lazare qui s'enfuirent devant les Juifs jusqu'à Marseille en Provence, sur Sainte Agnès, Sainte Agathe et Sainte Lucie, dont les cruels Romains crevèrent les yeux et arrachèrent les seins avec de brûlantes tenailles, sur les saints ermites dans les déserts et les cavernes, sur Saint Antoine auquel l'église paroissiale est dédiée. Mais il parlait surtout de Saint Dominique du pieux et savant Thomas d'Aquin et de Saint Pierre martyr qui, au moment de mourir, ne pouvant plus confesser sa foi par la parole, s'inclina pour écrire encore avec son sang dans le sable « Credo ». Tommaso racontait et Catherine écoutait. Elle connaissait bien les dominicains de Camporeggi. Souvent, ils passaient par les rues dans leurs robes blanches et leurs capes noires, blancs et noirs, les couleurs de Sienne, les couleurs de la Balzana, les couleurs du Campanile. Le blanc signifie leur pureté, le noir signifie leur humilité. Catherine se dissimulait derrière la fenêtre pour les voir passer, beaux comme des anges de Dieu, avec leur profil pâle et pur, les yeux toujours fixés au ciel, ne détournant jamais de côté et d'autre leur regard vers les femmes qui, sur le seuil des maisons, soupiraient. « Como è bello, troppo bello, père, essere frate, che peccato !» Non, précisément, il n'était pas trop beau pour Dieu. Pourquoi le Seigneur n'aurait-il jamais à son service que des bossus et des boiteux? De son abri, Catherine remarquait la place où les moines posaient leurs pieds. Et dès qu'ils s'étaient éloignés et que les visages empourprés des femmes aux cheveux noirs avaient disparu de l'encadrement des portes, elle s'élançait au dehors pour baiser les pierres sur lesquelles les pieux frères avaient marché. D'ailleurs, Catherine était vive et gaie, et si alerte qu'on la voyait souvent voltiger en quelque sorte du haut en bas des escaliers. Tous les voisins l'aimaient. Elle était si gracieuse qu'on l'appelait à cause de son charme Euphrosine, qui est le nom d'une des grâces. Raymond de Capoue, qui ne suppose pas une telle culture classique chez les habitants de Fontebranda, dit à ce sujet « Je suis tentée de croire que c'est un surnom qu'elle s'est donné elle-même, comme le font souvent les petits-enfants. Il y a du reste une sainte Euphrosine. » Et plus tard, Catherine considéra comme un présage d'avoir porté ce nom. En effet, on raconte que sainte Euphrosine, voulant entrer dans un couvent de moines au lieu de se faire religieuse, se coupa les cheveux et revêtit des habits d'homme. Et nous verrons que Catherine l'eût bien volontiers imité en ceci. Mais pour entrer en religion, soit parmi les hommes, soit parmi les femmes, il faut être d'une grande piété. Dès lors, on trouvait souvent Catherine priant dans des coins isolés de la maison, ou bien on l'entendait monter l'escalier en récitant à chaque marche de sa petite voix un « Je vous salue Marie ». Je me la représente ainsi bien facilement, car j'ai eu moi-même une petite fille de 6 ans qui faisait oraison à sa manière dans un escalier où était suspendu un grand tableau de la Madone. Puis vint le jour où la vision apparut à Catherine au-dessus du toit de l'église San Domenico. Et à dater de cette heure, elle ne fut plus un enfant. Le christianisme, dès l'origine, a été la religion des révélations et des visions. La littérature chrétienne la plus antique, les écrits des apôtres et les évangiles ne permettent aucun doute à ce sujet. Au crucifixion de Jésus succéda la résurrection, après laquelle maintes fois le Maître apparut à ses disciples. Au jardin de Joseph d'Arimathie, Madeleine tombe aux pieds du jardinier qui l'appelle de son nom, et ce seul mot suffit à lui inspirer son joyeux rabouni. C'est sa voix, ainsi avait-il coutume de l'appeler. À Emmaüs, les écailles tombent des yeux des deux disciples au moment où ils s'asseyent à la table avec le voyageur qu'ils ont rencontré en chemin. C'est ainsi qu'il rompit le pain, le bénit et le leur donna. Et à Jérusalem, le ressuscité apparaît à Simon et aux autres disciples en les saluant selon sa coutume. Shalom aleikum. Même après l'ascension, les relations continuent entre Dieu et les hommes. À l'heure de sa mort, Étienne, dans le ciel ouvert, aperçoit Jésus à la droite de son Père. Saul, ébloui par une aveuglante lumière sur le chemin de Damas, entend une voix tonnante dire « Je suis Jésus que tu persécutes ». Derrière le voile ténu des phénomènes, Jésus est constamment présent et dans les visions et les apparitions, le voile se déchire. Avec Étienne et Paul, un François d'Assise, une Catherine de Sienne, une Brigitte, une Jeanne d'Arc voient le ciel ouvert et entendent d'indicibles paroles. Mais ils sont dans leur corps ou hors de leur corps. Ils ne le savent pas, Dieu le sait. De même que Catherine, l'Italienne, notre Brigitte scandinave était une voyante. La veuve d'Ulf Gudmarsson mourut à Rome le 23 juillet 1373, sans que la Siennoise l'eût connue, sinon elle se serait assurément saluée comme des âmes sœurs. Or, la sainte suédoise a plusieurs fois essayé de décrire ce qu'est l'état de voyant. Nous lisons dans l'introduction à la règle de son ordre. Dans le royaume de Norvège, sainte Brigitte, absorbée par sa prière, sentait ses forces abandonner son corps, mais son âme vivifiée pourrait voir, entendre, dire et sentir des choses purement spirituelles. Et il lui arrivait fréquemment de tomber en cet état. On lit dans la préface du 5e livre des Révélations. Un jour, tandis qu'elle se rendait à Vanstena, ayant élevé son âme vers Dieu, elle fut ravie hors d'elle-même et abîmée dans l'extase. Elle vit et entendit alors tout ce qui est rapporté au 5e livre. L'évêque Alphonse de Jean témoigne qu'il vit souvent sainte Brigitte privée de l'usage de ses sens, ne plus se rendre compte de ce qui se passait autour d'elle. Et de cet état, Brigitte dit elle-même « Ô Dieu très bon, combien merveilleuse est la façon dont tu me traites, car tu endors mon corps dans le sommeil, tandis que tu éveilles mon âme jusqu'à lui faire voir, entendre et sentir les choses surnaturelles. Tu m'endors quand il te plaît, non d'un sommeil corporel, mais d'un spirituel repos, et tu éveilles mon âme comme d'une torpeur jusqu'à la faire voir, entendre et sentir spirituellement. » Il en était absolument ainsi pour Catherine. Tout ce qu'on qualifie d'inspiration est d'ailleurs toujours accompagné de quelques-unes de ses caractéristiques. Le poète ou l'artiste, absorbé par un labeur intense, se sent soulevé au-dessus des exigences du corps, étant tout à donner à son travail qui se fait aisément, sans obstacle et sans difficulté, comme si une puissance étrangère, une autre personnalité en était l'auteur. Je ne suis qu'un instrument. Le maître joue sur moi, a dit un poète danois, et Nietzsche, pour expliquer l'état dans lequel il composa, ainsi parla Zarathustra, écrit ces lignes. Peut-on, à la fin du XIXe siècle, se faire une idée très nette de ce que les poètes d'antan appelaient inspiration, ou bien dois-je le décrire? N'eût-on en soi que le moindre atome de superstition, on ne saurait écarter la pensée que l'on n'est que le porte-voix, le médium d'une influence souveraine. On ne peut désigner ce phénomène que par le mot « révélation ». C'est-à-dire que subitement, avec une certitude et une précision indicibles, quelque chose devient visible et perceptible, quelque chose qui vous bouleverse jusqu'au plus intime de l'être. On ne cherche pas, on écoute, on reçoit sans demander qui donne. Tel un éclair, une pensée nettement formulée se fait jour. Je n'ai jamais eu à choisir. Ce ravissement d'une excessive tension se fond parfois en un torrent de larmes. C'est une façon de sortir totalement de soi-même, en se sentant secoué jusqu'à la pointe des pieds d'un fourmillement de frissons. C'est un abîme de bonheur où ce qu'il y a de plus sombre et de plus douloureux ne forme plus un contraste, mais semble nécessaire, indispensable, comme une ombre inéluctable dans une surabondante lumière. Tout se passe involontairement, comme au milieu d'une tempête, avec, au plus haut degré, le sentiment qu'on possède la liberté et la puissance divine. Strindberg a dépeint l'extase poétique d'une façon analogue, l'appelant un état qui procure un bonheur indescriptible, une vraie béatitude tant que dure l'inspiration. L'extase dans laquelle une sainte Catherine, une sainte Brigitte ont leur vision et reçoivent des révélations n'est qu'un développement de cette inspiration poétique. Nulle part, peut-être ceci n'apparaît plus clairement que chez le célèbre mystique dominicain allemand Henri Suso, dont un théologien catholique a pu dire avec raison « Il semble que ce soit la nature, mais la nature supérieure de Suso, qui se révélant de cette manière, cherche et trouve la consolation et la lumière. » La pureté des visions célestes, la douceur des chants angéliques, tout ce qui l'émeut si profondément, d'où cela vient-il donc sinon du poète intérieur, du chanteur secret qui vit en son âme? En Catherine comme en Brigitte, nous trouvons un sens poétique aussi mûr que précoce, mais il s'y joint, chez la siennoise, certaines particularités physiques qui ne se rencontre pas chez la Suédoise. Ces extases plongeaient Catherine dans un état d'insensibilité et de raideur tétanique, en sorte qu'on pouvait lui transpercer le pied avec une épingle sans qu'elle s'en aperçût. Et souvent, l'appât, la très naïve l'appât, désespérée d'avoir reçu un signe dans sa couvée d'oison, faillit briser sa fille dans la bonne intention de ployer son corps ou ses membres raidis. Catherine possédait ce génie religieux qui tient le corps dans la dépendance totale de l'esprit, et de même que chez Brigitte, ce génie se manifesta dès l'âge le plus tendre. Le soir dont nous avons parlé, Catherine, âgée de 6 ans, vit Jésus, et de ce jour commença la lente transformation de son âme. Celui qui garde mes commandements et les observe, celui-là m'aime et je l'aimerai, et je me manifesterai à lui. Cette parole de Jésus est la clé de la psychologie des saints et par conséquent de celle de Catherine. Elle avait vu le Seigneur et la voix qui jadis au bord du lac de Génézareth appela les disciples retentissait maintenant dans son âme douce et pénétrante comme une très lointaine sonnerie de cloche qui ne laisse aucun repos jusqu'à ce qu'on se soit mis en route et qu'on ait découvert d'où vient le son. Et la douce voix disait au cœur de Catherine « Viens, suis-moi loin de ton père et de ta mère, de tes sœurs et de tes frères, de ta maison, de ton foyer, de ta ville, de ta patrie. Suis-moi dans le désert jusqu'aux 40 jours de jeûne et jusqu'à la tentation du démon. Suis-moi quand je monte à Jérusalem. Suis-moi jusqu'à la colonne du supplice, jusqu'à la flagellation, jusqu'à la couronne d'épines, jusqu'à la croix. Suis-moi, non pas comme Pierre m'a suivi, mais comme Jean. Tiens-toi comme Marie au pied de ma croix et vois mon sang ruisseler sur toi en gouttes brûlantes. Suis-moi comme les saints martyrs m'ont suivi. Suis-moi comme saint Pierre martyr jusqu'au témoignage du sang. Suis-moi comme Magdeleine dans sa caverne de roche et comme saint Antoine dans le désert. Cette vision et cette bénédiction furent si puissantes, affirme Caffarini, qu'elle ne pouvait plus penser qu'aux saints ermites et à suivre leur exemple. Il y avait dans la maison de Fontebranda plusieurs sombres cachettes que Catherine put transformer en ermitage. Elle s'y réfugiait et jouait de son mieux à l'ermite, priant et jeûnant quand les autres prenaient leur collation et se flagellant avec un fouet qu'elle avait elle-même fabriqué. Peu à peu, il parut à d'autres petites filles que c'était un jeu des plus divertissants. Alors Catherine le leur expliqua et leur prescrivit des prières, montrant déjà par là sa nature dominatrice. Cependant, elle finit par se lasser de ce simulacre. Son esprit s'orientait vers une réalité et non vers une vaine illusion. Aussi un jour quitta-t-elle la maison, bien résolue, à s'en aller par le vaste monde pour devenir une véritable ermite. Et se dirigeant du côté de la porte Sansano, elle s'enfuit. C'était la première fois que Catherine se trouvait hors des murs de Sienne. Le chemin descendait vers Valle Piatta, la ville disparut bientôt derrière elle et l'enfant se trouva seul au milieu des arbres. La vallée s'ouvre entre des rochers de tuf dans lesquels se forment des anfractuosités qui, aux yeux de Catherine, pouvaient passer pour les casernes du désert, et elle pénétra dans l'une de ces grottes. Elle s'était munie d'un pain et ainsi pourvue, entreprit de vivre en solitaire. Se mettant à prier, elle se trouva de nouveau en cet étrange état où tout disparaissait autour d'elle et elle eut le sentiment de planer dans un monde d'éclatante lumière. Elle avait l'impression de s'élever peu à peu au-dessus de terre, plus haut, toujours plus haut. Finalement, sa tête heurta la voûte, ce qui la réveilla. Elle s'aperçut alors qu'elle avait dû rester longtemps dans la grotte. Le soleil était bas, les cigales chantaient dans les figuiers et là-haut, à San Domenico, on carillonnait les vêpres. Tous ces plans de vie érémitique s'évanouirent soudain et Catherine songea seulement qu'elle était bien loin de la maison et qu'avant peu, la porte de la ville serait fermée. De plus, ses jambes étaient si particulièrement faibles que jamais elle ne pourrait parcourir le long chemin qui monte la colline. Le vertige la saisit. Un nuage passa devant ses yeux et une fois encore, elle éprouva la sensation de planer et sans savoir comment, se retrouva tout à coup au-delà de la porte Sansano. Le cœur battant, elle se hâta de rentrer. Personne n'avait soupçonné sa fuite. On pensait qu'elle était allée chez sa sœur comme elle le faisait souvent. Catherine ne renouvela jamais cette tentative, mais elle avait compris là-bas, dans la grotte, que sa vie devait être consacrée au Seigneur, et l'enseignement de l'Écriture lui devint intelligible. Une femme non mariée, une vierge, pense aux choses qui regardent le Seigneur pour être sainte de corps et d'esprit, mais celle qui est mariée pense aux choses du monde et aux moyens de plaire à son mari. D'une part le Seigneur, de l'autre le monde. La jeune âme de Catherine n'hésita pas dans son choix. À l'âge de 7 ans, elle se promit à Jésus devant l'image de la Madone. « Bienheureuse Vierge Marie, s'écria-t-elle, ne considère pas ma faiblesse et accorde-moi la grâce d'avoir pour époux celui que j'aime de tout mon âge, ton Fils très saint, notre Seigneur Jésus-Christ. Je lui promets, ainsi qu'à toi, de n'en accepter jamais d'autre. » C'est ainsi que se fit le pas décisif. Catherine devint la petite fiancée du Christ, à l'exemple de son homonyme Sainte Catherine d'Alexandrie, que l'on voit sur les retables étendant sa main, où la Vierge Marie place celle du divin enfant qui lui passe au doigt un anneau. Désormais, en épouse soumise, Catherine s'efforcera uniquement de faire la volonté de son époux. Or, la volonté de Jésus est qu'avant tout, on se châtie soi-même et que l'on dompte sa nature, ce que la petite Catherine Benincasa avait déjà commencé de faire par ses pénitences enfantines et ses oraisons dans la cave et dans les greniers. Depuis lors, elle se condamna à ne manger que du pain et des légumes. Quant à la viande, elle la posait dans l'assiette de son frère Stefano ou bien la jetait sous la table aux chats, inséparables des cuisines et des salles à manger italiennes. C'est vers cette époque qu'un tout petit incident démontra à Mona Lapa à quel point Catherine tenait de son père. un matin, elle l'envoya à l'église paroissiale Saint-Antoine pour offrir un cierge et prier le curé de dire la messe à une intention particulière. Catherine s'acquitta de sa mission, mais au lieu de revenir aussitôt, elle resta à entendre la messe qu'elle avait demandée. Lorsqu'elle rentra enfin, l'appât était fort impatienté par son retard. Catherine écouta tout d'abord paisiblement ses violents reproches, puis elle dit « Mona Madre, punissez-moi lorsque je ne vous obéis pas, ainsi que je le devrais. Mais je vous en prie, n'employez pas de telles paroles, et surtout, ne soumettez de mal à personne, car cela ne convient pas à votre dignité de mère et m'afflige le cœur. » À ce moment, Catherine n'avait pas encore 10 ans. Quand, le soir venu, Giacomo remonta de la teinturerie, sa femme s'écria « Écoute donc ce que ta fille m'a dit aujourd'hui !» Plus tard, la fille du teinturier de Fontebranda devait dire la vérité aux puissants de ce monde avec la même fermeté et la même douceur.